Bonne journée à l'écoute de
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 25 novembre 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Edressa Sedoudia. Tout d'abord les titres. Deuxième ou dernière chance, la phase des groupes dans le Mondial 2022 offre dès ce vendredi les premiers tickets pour les huitièmes et l'élimination. Vous aurez également l'analyse sur les rencontres de ce jeudi avec Eric Manirakidza. En RDC, c'est ce soir à 18h que doit entrer en vigueur dans l'est du pays l'accord de cessez-le-feu. Pas vraiment concerné, se dit le M23, protestation à Goma contre l'accord. Au Burkina Faso, plus de 90 000 supplétifs civils de l'armée ont été enrôlés pour lutter contre les djihadistes, annonce Ouagadougou. En Guinée, les principaux partis boycottent le dialogue ouvert par la junte sur les conditions d'un retour des civils au pouvoir. En Libye, plus de 200 étrangers reconduits aux frontières par l'organe de lutte contre l'immigration clandestine. Tout d'abord, le journal de la Coupe du Monde d'Eric Manirakidza. Après les rencontres de ce jeudi de la Coupe du Monde Qatar 2022, toutes les équipes ont disputé leur premier match. Les résultats et l'analyse du déroulement de différentes confrontations de la journée dans ce journal du Mondial d'Eric Manirakidza.
Commençons ce journal de Idrissa par les matchs clés de ce jeudi, synonyme d'élimination directe. Déjà des qualifications pour les huitièmes de finale et déjà des retours à la maison. L'Angleterre et les Pays-Bas côté pile, le Qatar et l'Iran côté face pourraient voir leur sort scellé ce vendredi. Le Qatar, dominé par l'Équateur en match d'ouverture, doit retrouver son football face au Sénégal. S'il ne veut pas devenir le pays hôte le plus rapidement éliminé dans l'histoire du tournoi. Cependant, les Lions de la Teranga doivent impérativement gagner pour maintenir leur chance de qualification. Mais même en cas de succès ce vendredi, restera une finale à disputer 4 jours plus tard contre l'Équateur. Autre affiche à suivre, les États-Unis face aux Anglais. La seule finale dont rêve l'Angleterre, c'est la vraie, celle qui se disputera au stade de Lusail le 18 décembre. Vice-championne d'Europe, demi-finaliste du dernier mondial, l'équipe 3 Lyon veut franchir la dernière marche dès ce vendredi.
La Seleção s'est affirmée ce jeudi comme l'une des favorites de ce mondial 2022. Le Canada s'est incliné face au Portugal, la Suisse a porté un coup sévère au rêve de qualification du Cameroun et l'Uruguay et la Corée du Sud n'ont pas pu se départager 0-0, Eric.
Tout à fait, Idrissa, un spectacle très intense et riche en couleurs. Suivez l'analyse de Tarsis Haririmana, journaliste olympique indépendant basé à Ottawa, au Canada.
Je ne sais pas si on peut parler de frustration, même si vers la fin, on a compris que le Portugal aussi avait failli encaisser le troisième but. Je pense que le Ghana a fait un bon match.
Et selon votre analyse, qu'est-ce qui a fait que le Ghana n'a pas tenu jusqu'à la fin?
Il y a un problème au sein de l'équipe du Ghana, c'est le collectif qu'il faut mettre en place avec des joueurs qui viennent un peu partout dans des championnats en Europe. Et l'entraîneur a des difficultés, il avait peut-être peur du Portugal, un schéma défensif au départ. Et puis bien sûr, c'est Sobi inscrit par Ronaldo. Mais il y a eu une bonne réaction parce qu'en fait, le Ghana, c'est le Brésil d'Afrique. Bonne réaction des Ghanéens. À mon avis, je pense que le Ghana a fait un bon match dans l'ensemble.
Et c'est la première équipe africaine à marquer dans ce mondial.
Oui, c'est vrai qu'ils ont marqué deux buts avec André Ayou et Ousmane Boukari. Ben, les deux joueurs sont connus. Je pense que le Ghana, c'est une équipe, on l'a vu chez les jeunes, qui marque souvent au mondial, mais évidemment dans la catégorie des jeunes.
Parlons du Brésil. C'était un match très intense. Les Serbes ont tenu pendant la première période. Mais dans la seconde partie, l'équipe serbe a fini par craquer. Le Brésil a très bien défendu son statut de favori.
Oui, le Brésil, c'est l'équipe qui est favorite actuellement. La Serbie a fait son possible, mais c'est une équipe serbe aussi qui est en bonne progression. C'est vraiment un match qui nous donne un peu d'espoir pour l'équipe du Cameroun, mais difficile aussi pour l'équipe de Suisse. C'est vraiment un groupe très compliqué pour le Cameroun.
Et Eto, même le capitaine camerounais, promettait de ramener la coupe à Yaoundé.
Je pense que si le Cameroun arrive à dépasser ce premier tour qui est difficile en face de la Serbie et du Brésil, je pense que ça serait une bonne réussite, mais c'est une équipe aussi à refaire. Oui, quand on est camerounais, on croit à la victoire et surtout à la Coupe du Monde de football. Mais ce n'est pas évident. Je pense que l'équipe n'est pas vraiment au top pour prétendre atteindre même les quarts de finale comme c'était l'exploit en 1990.
L'Uruguay qui a été tenu en échec par la Corée du Sud.
Moi je pense que l'Uruguay a été tenu en échec par la Corée du Sud. Cette équipe, c'est une équipe accrocheuse, c'est une équipe qui est en progression aussi au niveau de la Corée. Mais ça fait bonheur, à mon avis, au Ghana qui a perdu face au Portugal. La rencontre Ghana-Uruguay, ça sera une grande rencontre, alors qu'effectivement, il faut s'attendre aussi à un match difficile qui vont jouer les Portugais face à l'Uruguay.
Précisons que le maître à jouer du Brésil, Neymar, souffre d'une entorse à la cheville droite, a annoncé ce jeudi soir le médecin de la fédération après la victoire de son équipe sur la Serbie. Nous avons confiance, Neymar rejouera dans cette Coupe du Monde, a néanmoins lancé le sélectionneur titre d'un ton ferme.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Merci à Eric. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, des centaines de personnes ont défilé hier dans la ville de Goma, dans l'est du pays, pour protester contre un accord conclu entre les dirigeants africains visant à mettre fin aux attaques des rebelles du M23. Le point avec Rosine Mounezero.
Après un sommet en Angola mercredi, les dirigeants africains sous l'égide de l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, ont déclaré un cessez-le-feu à partir de vendredi et sommé le M23 de se retirer des territoires occupés ou faire face à une intervention des forces régionales. Ces accords et sommets ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est la paix et la sécurité, a déclaré John Banyene, militant de la société civile et leader de la manifestation. Ces manifestations ont éclaté à Goma, une ville située à environ 20 km de la zone de conflit actuelle. La marche s'est terminée devant les consulats français et britanniques, où John Banyene a lu un mémorandum demandant aux puissances étrangères de sanctionner le Rwanda et l'Ouganda pour soutien présumé au M23.
Un porte-parole du M23 a estimé hier soir que le mouvement rebelle n'était pas vraiment concerné par l'accord de cessez-le-feu et a réclamé un dialogue direct avec le gouvernement congolais qu'il a de nouveau rejeté. Pour Christophe Lutundula, le chef de la diplomatie congolaise, il est exclu de négocier avec ceux qu'il a qualifiés de terroristes. Au Burkina Faso, plus de 90 000 VDP, volontaires pour la défense de la patrie, des civils appelés à seconder l'armée dans sa lutte contre les djihadistes, ont été enrôlés en 3 semaines à travers le pays, a annoncé hier l'armée burkinabé. Le Burkina Faso avait lancé le 24 octobre une campagne visant à recruter 50 000 volontaires, 35 000 assignés à leur commune de résidence et 15 000 pouvant être déployés sur le territoire. Sur les besoins estimés à 50 000, on enregistre plus de 90 000 inscrits, a écrit le commandant de la brigade de veille et de défense patriotique, le lieutenant-colonel Thomas Aodogo. Cette campagne s'est achevée le 18 novembre. En Guinée, les principaux partis politiques ont boycotté hier jeudi l'ouverture d'un dialogue avec les autorités dominées par les militaires sur les conditions d'un retour des civils au pouvoir. Nani Talani.
Ces assises doivent permettre aux partis et organisations de la société civile de discuter jusqu'au 15 décembre de l'organisation des élections, de l'élaboration d'une nouvelle constitution et du référendum auquel elle donnerait lieu ou encore du recensement préalable de la population. Ce dialogue interguinéen, initié par la junte, est supposé associer le plus grand nombre à la conduite de la période dite de transition au cours de laquelle doit se préparer le retour des civils à la tête du pays. Mais il s'ouvre dans un climat de forte défiance après des mois de répression de toute dissidence. Le dialogue a le soutien de la CEDEAO, dont le médiateur, l'ex-président béninois Thomas Boni Yayi, qui prenait part à l'ouverture des débats. Les principales organisations politiques, la NAD, le RPG et le FNDC, l'ont en revanche boycotté comme prévu. Elles avaient conditionné leur participation à 10 préalables, dont la libération de tous ceux qui ont été emprisonnés dans un contexte politique, l'arrêt immédiat des poursuites engagées sous la junte contre nombre de leurs dirigeants, la faculté pour leurs leaders en exil de rentrer ou encore la levée de l'interdiction de manifester. Selon le Premier ministre Bernard Goumou, ces sujets pouvaient être discutés, mais ne pouvaient être un facteur de blocage du dialogue.
En Libye, l'organe chargé de lutter contre l'immigration clandestine a organisé jeudi des convois routiers vers les frontières Est et Sud pour envoyer plus de 200 étrangers, 105 Égyptiens, 101 Tchadiens et 20 Soudanais, à la faveur d'une coordination inédite entre régions rivales. Plongé dans le chaos depuis la chute du régime de Muammar al-Kadhafi en 2011, la Libye est devenue une plaque tournante pour des dizaines de milliers de migrants cherchant à gagner l'Europe par la mer. Interceptés par la marine libyenne jusque dans les eaux internationales avant d'atteindre l'Europe, les migrants sont ramenés de force vers la côte, puis placés en détention, dans des conditions déplorables fréquemment dénoncées par les ONG et l'ONU. Au Soudan, un manifestant a été tué jeudi dans la banlieue de Khartoum d'une balle tirée par les forces de sécurité selon des médecins suite à la mobilisation de centaines de personnes contre le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan le 25 octobre 2021. Ce décès survenu à Omdurman porte à 120 le bilan d'un an de répression établi par un syndicat de médecins pro-démocratie. Presque chaque semaine depuis le putsch, des Soudanais descendent dans la rue, bravant la répression. Aucune sortie de crise ne semble en vue, malgré les médiations internationales qui tentent de réunir civils et militaires autour de la table de négociation. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a voté jeudi le lancement d'une enquête indépendante sur la répression des manifestations contre le pouvoir en Iran. Les détails avec Jean-Roger Bion.
La mission sera chargée de rassembler des preuves des abus commis lors de la répression meurtrière des manifestations qui ébranlent la République islamique depuis la mort de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans, le 16 septembre à Téhéran, après son arrestation par la police des mœurs. Khadija Karimi, représentante de Téhéran au Conseil de l'ONU, a accusé les États occidentaux d'utiliser l'instance pour cibler l'Iran, ce qu'elle a qualifié de consternant et honteux. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, avait demandé jeudi aux autorités iraniennes de pouvoir se rendre dans le pays, précisant ne pas avoir reçu de réponse. L'Iran n'a pas donné de chiffres sur le nombre de morts parmi les manifestants, mais le vice-ministre des Affaires étrangères, Ali Bagheri Kani, a déclaré jeudi qu'une cinquantaine de policiers étaient morts et que des centaines d'autres avaient été blessés lors des troubles. Il s'agit du premier bilan officiel concernant les décès au sein des forces de sécurité. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, la répression des forces de sécurité iraniennes a fait plus de 300 morts.
L'Ukraine s'attelait vendredi à réparer des infrastructures énergétiques endommagées par des frappes russes massives et à réapprovisionner des millions d'Ukrainiens sans chauffage et sans lumière, une stratégie russe qualifiée de crime de guerre par les alliés occidentaux au moment où l'hiver s'installe. Le système énergétique ukrainien est au bord de l'effondrement. En Indonésie, mobilisant des hélicoptères et des milliers de sauveteurs, les autorités ont tenté jeudi de localiser des dizaines de disparus, 3 jours après le séisme qui a fait au moins 272 morts et alors que l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'organisation non gouvernementale CARE a mis en place depuis 2008 en RDC une structure appelée AVEC, Association Villageoise d'Épargne et de Crédit, pour aider les femmes dans leur autonomisation économique. Avec l'aide de CARE RDC, cette structure a pu mettre en place 5500 groupes avec environ 140 000 femmes membres qui participent à cette organisation. Pour en parler, Marius Murunga a reçu Mme Sidibé Khadidja Cissé, responsable de CARE RDC.
L'approche avec, en fait, ce sont les femmes qui s'organisent en groupe au sein de leur communauté, des groupes d'environ 25 à 30 maximum membres. Elles épargnent leurs propres ressources hebdomadairement. Elles mettent en place un comité de gestion pour assurer vraiment le bon fonctionnement du groupe. Et après quelques semaines de cotisation, elles s'entendent sur les mécanismes de fonctionnement du groupe pour pouvoir commencer à s'octroyer un crédit interne au du groupe.
En quoi AVEC est différent des autres concepts d'aide au développement?
C'est que les AVEC fonctionnent avec l'épargne des femmes. Ce sont les femmes qui identifient les moyens, les possibilités de celles qui sont les plus vulnérables ou démunies pour commencer.
Et ces femmes qui, dans la plupart des cas, sont en difficulté, où est-ce qu'elles trouvent ces moyens pour venir en aide aux autres?
C'est leur argent. Elles sont en train de travailler avec leur argent. Et pour commencer ces AVEC aussi, les femmes doivent obligatoirement mener une petite activité génératrice de revenus, quelle qu'en soit la taille.
Dans quelle localité se trouve également ce genre d'organisation et quel est l'impact sur les communautés locales?
Ces organisations au Congo, nous les avons mises en place dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema. Globalement, nous avons travaillé dans 3 villes, à savoir Butembo, Goma, Bukavu et dans 12 territoires. Les territoires de Lubero, Nyarugongo, Masisi, Rutshuru, etc. Je dirais tout d'abord que l'approche AVEC est vraiment durable et pérenne au sein des communautés. Nous avons les évidences de l'importance et de l'impact de l'approche dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine économique où l'approche permet aux femmes et aux jeunes filles de mobiliser suffisamment de fonds pour investir dans les activités génératrices de revenus et leurs entreprises. Ça permet aussi de les aider à améliorer les conditions de vie de leur ménage à travers la réponse à certains besoins prioritaires et grâce aux revenus durables qu'elles génèrent. Et aussi, ça leur permet de se retrouver un peu dans les instances de prise de décision, non seulement au niveau de leur communauté, mais aussi au niveau de leur ménage. Ça améliore les relations entre les membres de leur ménage. C'est une approche qui permet de créer un espace important, mais aussi un canal qui permet à d'autres projets de mettre en œuvre des actions transversales et multisectorielles telles que, par exemple, si on veut parler d'agriculture résiliente, si on veut parler de changement climatique, de planification familiale, de leadership des femmes d'entrepreneuriat, etc. Donc, ça favorise aussi, par ailleurs, la cohabitation pacifique entre les communautés car ils privilégient leurs intérêts communs qui les unissent dans les groupements aux différents. Je prends l'exemple, pendant les crises, les femmes mettent la solidarité au devant pour soutenir leurs sœurs, leurs mères, leurs enfants de différentes manières. Par exemple, il y a des appuis, nous avons noté des appuis pour l'hébergement, par exemple, des déplacés, les appuis en nourriture, les appuis même en besoin en alimentaire, tels que les habits, les ustensiles de cuisine, etc.
C'était Madame Sidibé Khadidja Cissé, responsable de CARE RDC.
Le Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Retour sur le récent sommet de l'initiative d'Accra tenu mardi et mercredi dans la capitale ghanéenne. Cette initiative regroupe 7 pays, dont le Burkina, pour lutter contre le terrorisme. Elle va lancer une force multinationale conjointe les prochaines semaines. Le Burkina, durement touché par le terrorisme, ne compte pas tergiverser au sein de cette initiative. C'est ce qu'a fait comprendre son premier ministre, qui a participé au sommet d'Accra. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré fait le point.
L'initiative d'Accra est un regroupement de 7 pays pour faire face au terrorisme. Il s'agit bien évidemment du Burkina Faso, du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Togo et enfin du Nigeria en tant que pays observateur. Ces pays doivent mener des opérations conjointes, former leurs soldats et vont se partager le renseignement. Le Burkina veut aller vite car les attaques sont quasi quotidiennes. Apollinaire Kyelem, premier ministre du Burkina.
Si cette initiative-là ne donnait pas de résultats concrets, le Burkina Faso se réserverait le droit de se retirer de cette initiative parce que nous ne sommes pas pour des réunions et des sommets sans fin qui tournent en boucle et sans résultat. Et je pense que nous avons été compris parce que l'initiative d'Accra pour la sécurité dans la sous-région a pris conscience de cela. Et les États se sont engagés à mettre en place très rapidement une force conjointe pour soutenir les pays qui luttent contre l'insécurité et le terrorisme au Sahel.
L'initiative d'Accra a décidé de lancer sa force antiterroriste dans les prochaines semaines. Les pays ont besoin de 550 millions de dollars pour le fonctionnement de l'organe. La CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, la Grande-Bretagne sont déjà d'éventuels partenaires. Mais le Burkina prône un financement autonome de l'initiative. Le premier ministre burkinabé.
En prélevant par exemple rien qu'une certaine petite somme sur chaque kilogramme de café vendu, de cacao vendu, de coton vendu, de lingots d'or extrait, nous pouvons réunir les fonds nécessaires pour soutenir cette initiative-là et pour la paix et le développement dans la sous-région. Et je crois que nous avons été entendus. Et donc cette conférence est terminée et je peux dire satisfait parce que nous avons été entendus.
La force en création de l'initiative sera déployée à Tamale, dans le nord du Ghana. Le renseignement, lui, sera basé à Ouagadougou. Siaka Koulibaly est analyste politique.
A priori, je pense que les pays comme le Burkina Faso sont demandeurs donc de la coopération régionale en matière de sécurité et devraient accueillir avec satisfaction l'annonce de cette nouvelle force qui vient d'être mise en place. Reste à voir la faisabilité d'un contingent qui serait basé à Tamale, dont on ne connaît pas très bien les capacités de projection sur le théâtre d'opération, qui se trouverait à environ 800 ou 1000 kilomètres.
L'initiative d'Accra, qui a été lancée en 2017, a comme axe le partenariat et le soutien entre pays membres. Le Nigeria, même s'il ne fait pas partie de l'initiative pour le moment, veut accompagner la force en appui aérien et logistique. Le grand absent au sommet d'Accra a été le Mali. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En Côte d'Ivoire, l'état civil se modernise. L'Office national de l'état civil et de l'identification s'est engagé à digitaliser son système. Un logiciel de gestion pour rendre plus accessible l'état civil aux populations. Un reportage de Delphine Bouise, notre correspondante à Abidjan.
L'Office national de l'état civil et de l'identification a décidé de passer à la vitesse supérieure pour l'identification des Ivoiriens. Christian Agokodia, directeur général de l'ONESI.
Avec cette stratégie, l'état civil va se rapprocher des populations à travers aussi la digitalisation, mais aussi que les populations adhèrent et puissent eux-mêmes aussi déclarer les naissances, déclarer de plus en plus les décès et pour que nous puissions avoir tous ces faits-là de façon le plus sûre possible.
Dans cette nouvelle approche, l'ONESI est soutenue par l'Union européenne. Un projet de modernisation à hauteur de 3,3 milliards de francs CFA doit prendre fin en juin 2023. Anne-Catherine Claude du Bureau de la représentation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire.
C'est important pour nous, l'enregistrement des faits d'état civil. Ça fait partie des droits humains d'avoir accès à une identité et donc ça s'inscrit voilà, aussi dans nos priorités.
Utilisation d'un nouvel outil de collecte des données, solutions innovantes dans les rues d'Abidjan, réaction des Ivoiriens. Kwame Konan-Deni, agent d'état civil.
Ce que nous souhaitons vraiment, qu'il y ait beaucoup de formation pour les agents qui sont dans les services de la mairie et la sous-préfecture, pour qu'au moins ils soient en phase avec les nouvelles données vis-à-vis de l'état civil.
Connais Awa comme essence, je vois que de nos jours, les enfants sont immatriculés, et puis ils ont les frais de l'essence. En tout cas, lorsque une femme met un enfant au monde, en même temps, on fait tout ça là, sur le champ. En tout cas, c'est une bonne idée.
Miss Akakadi.
Auparavant, sans le digital, c'était parfois difficile.
Moi, c'est M. Ange Wilfried. Cela permet d'enregistrer ses papiers et surtout aussi de pouvoir mémoriser certains archives.
La phase pilote a été lancée fin 2021 et au troisième trimestre cette année dans 21 centres d'état civil et 100 centres de santé. Le bilan avec Christian Agokodia, directeur général de l'ONESI.
En effet, 40% des déclarations de naissance étaient effectuées sur la base du jugement supplétif et seulement 20% des décès étaient déclarés dans les centres d'état civil.
L'ONESI prévoit dans les mois à venir le déploiement national de cette solution digitale et la consolidation régionale sera lancée l'année prochaine. Delphine Abouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Ici aux États-Unis, les Américains ont célébré hier jeudi la fête de la Thanksgiving, la journée d'action de grâce, l'occasion pour des millions d'Américains de se retrouver en famille. Le lendemain de cette fête, baptisée Black Friday, ils sont aux aguets pour les bonnes affaires dans ce vendredi noir, jour du coup d'envoi de la saison des achats de 2022. Chris Casquero de la VOA se penche sur les prévisions de dépenses des consommateurs américains victimes de l'inflation. Le point avec Michel Joseph.
À quelques enclabures de Washington, D.C., la capitale américaine, se trouve la ville historique d'Alexandria, en Virginie. Elle abrite un quartier commercial très apprécié des habitants et des touristes. Une boutique qui vend des articles de maison et des cadeaux a survécu à peine au confinement durant la pandémie de COVID-19.
C'était lamentable et nous étions inquiets de ne pas y arriver.
Cette année, les clients sont de retour et prêts à mettre la main à la poche, mais avec prudence à cause de l'inflation.
J'ai l'impression que je cherche davantage un rabais ou quelque chose d'autre qui puisse m'influencer.
La Fédération nationale des vendeurs au détail prévoit que les ventes des fêtes de fin d'année en novembre et décembre vont augmenter de 6 à 8% par rapport à 2021. Selon les analystes, les clients sont à la recherche de valeurs.
Ils font leurs achats dans des marques différentes de celles qu'ils achèteraient autrement et ils envisagent aussi les magasins à bas prix. En outre, de nombreux consommateurs commencent leurs achats de Noël tôt pour étaler leur budget et s'assurer qu'ils ont suffisamment de temps, car chaque dollar compte.
Pour les principaux magasins américains, les perspectives économiques sont mitigées sur la base des résultats économiques au troisième trimestre. La grande compagnie Walmart a annoncé des bénéfices supérieurs aux prévisions et a relevé ses perspectives de bénéfices. Macy's et d'autres grandes chaînes affirment que les dépenses ont ralenti dans les semaines avant la saison des achats de Noël, ce qui pourrait entraîner des réductions de prix. C'est une bonne nouvelle pour les clients de ce centre commercial de la Virginie.
Je le fais beaucoup plus parce que pendant le COVID-19, nous ne dépensions pas tant d'argent. Nous devions rester à la maison. Alors maintenant, je dépense plus pour profiter de la saison.
Pour Amy Rutherford, propriétaire du magasin Red Barn Mercantile, la première saison d'achat en personne depuis 3 ans donne de l'espoir.
Je suis définitivement optimiste. Et en tant que propriétaire d'une petite entreprise, vous devez l'être, mais je le suis vraiment cette année. Je sais que l'inflation est une chose et qu'elle a un impact sur beaucoup de gens, mais Noël arrive à grands pas. Il va quand même arriver.
Et malgré les inquiétudes liées à l'inflation, les boutiques espèrent que les acheteurs seront d'humeur à offrir des cadeaux pendant les fêtes. Dès vendredi, dans ce qu'on appelle le vendredi noir, Black Friday, les Américains iront à l'assaut des centres commerciaux dans une frénésie d'achat qui va durer toute la nuit.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sebudia, à la mise en onde, Firmin Koyaveda, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de